Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début de semaine. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette, un petit peu enrhumée au micro, peut-être vous l'entendez à ma voix. J'espère que c'est pas votre cas à la maison ou du moins où que vous soyez. Quoique, on est vraiment dans une période de rhume. On touche du bois, si vous en avez tout près. Moi, je touche la table. Aujourd'hui, je vous parle d'AVC. Hein. Vous savez, toutes les 10 minutes, une personne est touchée par un accident vasculo-cérébral au Canada. Si on fait le décompte de tout ça, là, c'est un peu plus de 50 000 personnes. Par chance, on réussit à sauver près de 80 % d'entre elles, mais la plupart du temps avec des séquelles qui vont de légères à assez lourdes. Afin de maximiser les chances de survie, de minimiser les impacts d'un AVC, ben, il n'y a pas de secret, il faut agir rapidement. Mais encore faut-il pouvoir reconnaître les signaux d'un AVC. Et tout à l'heure, je parlerai avec le neurologue Dr. Robert Côté. Il travaille du côté de l'Hôpital général de Montréal et il pourra nous éclairer là-dessus. Et puis d'abord, vous dire, et vous serez sûrement d'accord avec moi, hein, on associe souvent la grossesse, l'accouchement également à un grand moment de bonheur familial. Hein, ça touche tout le monde, autant les parents bien sûr, mais les grands-parents, les amis, tout le monde autour. C'est un moment de grâce presque, hein, d'euphorie, de frénésie. Et pourtant, j'ai été surprise de découvrir que le taux de suicide est 70 fois, oui, plus élevé dans l'année qui suit un accouchement que dans toute autre période de la vie d'une femme. Et c'est peut-être parce que certaines femmes vont vivre cette période-là dans la souffrance, dans la détresse et beaucoup trop souvent dans la solitude. Je parle ici de dépression postpartum et j'en parle avec Nathalie Parent, elle psychologue et également co-auteure de ce livre du postpartum à la dépression renaître après la naissance. Bonjour Nathalie Parent.
Bonjour Marianne.
C'est un plaisir de vous retrouver Nathalie.
Moi pareillement.
Nathalie, une chose qui m'a marquée dans votre livre, c'est ce constat que d'exprimer des pensées ou des sentiments négatifs envers la maternité, des déceptions envers notre accouchement ou même des sentiments négatifs, là, que ce soit de la colère ou de la déception envers notre bébé, c'est quelque chose qui est encore extrêmement tabou dans notre société et ça expliquerait peut-être pourquoi certaines femmes vont tarder avant d'aller chercher de l'aide ou d'exprimer leur souffrance suite à l'accouchement.
Oui, effectivement, les femmes vivent souvent un sentiment de honte à l'égard de ces sentiments-là qu'on qualifierait plutôt de négatifs, alors que ce sont des sentiments, hein, des sentiments, on peut en avoir de toutes les sortes, mais ceux qui sont, qui se relient finalement au fait de perdre sa place, d'être triste, finalement de pas avoir le goût d'allaiter, donc tous les sentiments qui sont pas dans le parfait bonheur de la maternité, ben les femmes ont plutôt honte ou sont gênées de parler de ça, alors que au contraire, à peu près toutes les femmes peuvent avoir un moment ou l'autre dans leur vie de postpartum ressenti des sentiments plutôt tristes ou de déprime ou de mal-être.
Dans votre livre, vous commencez par deux figures de cas bien distinctes. Donc, cette femme, Louise, qui vit un accouchement plutôt régulier, une maternité qui est plutôt normale, un accouchement qui est difficile, mais bon, qui se déroule, somme toute, assez bien. Puis, après l'accouchement, elle est très, très heureuse. Et l'autre figure de cas, c'est Francesca, qui, elle, va vivre aussi une maternité, somme toute, OK. Un accouchement, encore une fois, difficile, mais bon, tout se passe bien, un bébé en santé, mais ça va aller jusqu'au suicide. C'est une façon d'exprimer que il y a plein de spectres, en fait, dans cette dépression-là, suite à l'accouchement.
effectivement, il y a ces deux extrêmes qui sont présentés en début de livre pour montrer à quel point il y a quand même toute une variation entre ces deux extrêmes-là. Mm-hmm. Puis, et c'est pour ça aussi qu'après, il y a d'autres situations, d'autres femmes qui témoignent, oui, en fait, de leur réalité qui est fort différente pour chacune, mais qui a été aussi très souffrante. Alors, puis on montre aussi un peu comment chacune s'en est sortie, parce que chacune a ses ressources et ses façons à elle pour s'en sortir.
Oui. Et il y a plein de raisons. Il y a un cas qui m'a bien marqué, je dirais, Nathalie, c'est cette femme qui, suite à l'accouchement, perdait ses cheveux énormément et c'est devenu presque une obsession pour elle et ça l'a fait sombrer, ça et plein d'autres raisons, dans une dépression assez sévère. Quelles sont les raisons qui nous mènent à la dépression postpartum?
C'est sûr qu'il y en a plusieurs, mais il y a tout le contexte environnemental, c'est-à-dire que, bon, est-ce qu'il y a du support? Il y a aussi les vulnérabilités de chacune, je devrais dire. Mm-hmm. Donc, la personne qui a déjà fait des dépressions antérieurement ou encore qui a vécu beaucoup d'anxiété, on sait que c'est une prédisposition à rendre plus fragile ou sujette à vivre une dépression ou du moins une souffrance plus marquée. Il y a aussi tout ce qui touche un accouchement difficile ou un mm-hmm. problème avec bébé, une grossesse difficile, le manque de sommeil, tout ce qui touche également la personnalité. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à s'adapter de façon générale? Si oui, alors là, on sait qu'avec un bébé, il faut constamment s'ajuster. Mais il y a aussi l'image idéale que chaque mère, chaque femme se fait enceinte du bébé, de la maternité. Et cette image-là, on y projette plein de désirs, plein de choses qu'on veut, mm-hmm. qui est comme une image idéale. Et quand on arrive avec la réalité, ben des fois, si la réalité est très loin de l'image que je m'étais faite, ben c'est possible qu'on est plus à risque de tomber là, dans une déprime.
Ouais. Mais Nathalie, lors de la grossesse, est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas, diminuer nos attentes? Parce que c'est difficile de dire à une mère qui attend un bébé, bon là, attends-toi pas à grand-chose.
Ben c'est plus facile à dire qu'à faire.
Hein? Ouais.
C'est pour ça que moi, je dis souvent que l'idéal, c'est d'en parler. Mm-hmm. Parler de à quoi je m'attends, comment je vois ça, comment je le vis actuellement aussi. Donc, parler de tout ça, puis souvent enceinte, puis même après, il y a des craintes. Hein? Les femmes vivent des fois, en fait, plus que des fois, très souvent, elles vivent des appréhensions, des inquiétudes, que ce soit face à elles, face à leurs compétences de mère, mais aussi face au bébé, comment il va être, est-ce qu'il va bien boire, est-ce qu'il va se développer normalement, est-ce qu'il va avoir une anomalie, bon, et puis ça, on sait aussi que tous les tests, tous les examens qui sont faits durant la grossesse viennent ajouter un stress supplémentaire. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème, mais quand on suspecte quelque chose, même si ça s'avère être négatif, c'est-à-dire que tout se passe bien finalement, il n'y a pas d'anomalie, mais durant la grossesse, quand on sème un doute sur mm-hmm. le bon développement du fœtus puis du bébé à naître, bien ça apporte vraiment une anxiété, un stress supplémentaire chez la mère qui peut amener là, des états dépressifs ou de déprime, disons mm-hmm. ça, après.
On entend souvent parler du baby blues. Mm-hmm. Comment on peut faire la distinction entre le baby blues et la dépression postpartum?
En fait, le baby blues, ça touche davantage de femmes. C'est autour de 60 % des femmes qui vont vivre des pleurs, une émotivité, un sentiment d'incompétence. Mais ça va se vivre en moyenne être de courte durée, environ 2 jours en moyenne, oui. Et ça va être dans les 2 premières semaines post-accouchement. Alors que la dépression, elle, touche entre 10 et 15 % des femmes. Ça, c'est les statistiques, parce qu'il peut en avoir plus, mais statistiquement parlant, c'est le nombre qu'on retrouve là, mm-hmm. dans la littérature. Et ça c'est sur une période, c'est un sentiment de déprime qui va durer plus de 2 semaines. Et donc ça, ça peut apparaître après 10 jours d'accouchement jusqu'à 2 ans après l'accouchement.
Ah oui! Mm-mm. Donc, il faut rester assez vigilant aux symptômes, que ce soit pour nous ou encore, là, je m'adresse également aux entourages là, oui, de ces femmes-là.
Oui, puis j'ai le goût de dire que c'est davantage à l'entourage d'être alerte à ça, parce que des fois, la maman peut dire des choses, peut amener des commentaires du genre « Oh, je ne l'ai pas, si j'étais capable, il pleurerait pas tant que ça. » Bon, amener des commentaires comme ça qui fait que la maman, elle est collée dessus, alors que l'environnement peut voir que « Oups, il se passe peut-être quelque chose » ou encore la dépression, ça peut être la déprime, ça peut être le sentiment d'incompétence, mais ça peut être aussi beaucoup, pour certaines femmes, de l'irritabilité. Hein, dans le livre, il y a une personne qui témoigne de comment elle était tout le temps enragée. Là. C'était la colère qui était là tout le temps, puis c'est son conjoint, à un moment donné, qui dit « Ben là, ça marche pas. Il faudrait peut-être que tu ailles consulter. C'est peut-être que tu as de l'antithyroïde, je sais pas, c'est peut-être quelque chose, mais là, ça va pas, ça dure, puis... » Ça n'a pas de sens.
Oui.
Hein? Donc, c'est ça. Ça peut être dans la déprime, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre, hein? Une émotion intense qui perdure dans le temps.
Mais en même temps, j'ai l'impression, Nathalie, que ces femmes-là qui vont s'exprimer en disant « Ah, je suis fatiguée » ou « Ah, je ne l'ai pas, mon enfant pleure tout le temps, je ne suis pas habile avec lui », souvent l'entourage va dire « Bah, tu es fatiguée, repose-toi, bah, c'est normal, tu vas t'en sortir, tu vas t'en remettre. » Donc, c'est difficile d'exprimer clairement que peut-être on a des inquiétudes envers notre santé.
Mais vous avez raison, hein, parce que c'est vrai que dans notre société, on n'aime pas ça, entendre ça, hein, de quelqu'un qui déprime, ou on va trouver rapidement une solution, ou on va dire que c'est la fatigue, le stress. Oui, mais peut-être juste d'être à l'écoute de ça, juste de dire, oui, tu te sens incompétente, ah bon, ça se peut. Ça se peut que tu te sentes comme ça, ce qui ne veut pas dire que tu es comme ça, mais ça se peut. Hein? Mais juste recevoir ça, moi, je peux vous dire que le nombre d'hommes et de femmes que j'entends dire que finalement, quand le conjoint arrive de sa journée de travail, juste d'avoir à écouter la maman qui déborde d'émotions, déjà, ça vient faire un baume sur l'état de la mère et de la mère et du bébé.
Ouais.
Souvent, juste d'avoir à recevoir ça, d'être dans l'écoute, de comprendre, ouais, ça a été difficile. Aurais-tu le goût d'avoir une petite demi-heure pour toi, ou prends une heure, regarde, je vais prendre la relève, ou est-ce que tu voudrais qu'on appelle quelqu'un, une gardienne, ta mère, quelqu'un qui pourrait venir prendre le relais un petit peu, tu sais, ou faire un travail à la maison qui pourrait t'aider à alléger la tâche.
Ça, c'est le rôle du conjoint, à quelque part, le rôle du papa, Nathalie.
Oh, oui. Oui. Et puis souvent, ils sentent, eux, impuissants ou démunis, alors qu'ils ont tout un rôle à jouer juste dans le fait d'être là, d'être présent, d'assurer une présence à la maman et au bébé. Ça, c'est vraiment gagnant.
Est-ce que les spécialistes de la santé, je parle ici, ça pourrait être le médecin de famille ou autre, là, sont habilités à rencontrer ces femmes-là, à détecter assez rapidement les signaux et agir en conséquence?
Bien, c'est sûr que, un peu dans le sens de ce qu'on disait tantôt, la maman qui va dire « Ah, oh, je me sens pas bonne, bon », déjà, c'est un plus, hein, être en train de au moins ouvrir la porte. Mais combien il y en a qui n'oseront pas dire ça, qui n'oseront pas parler de ça devant le médecin? Alors, le médecin, il peut pas deviner. Donc, il peut avoir des indices en voyant la posture, le fait que la maman peut négliger son apparence, mais aussi son hygiène, le fait qu'elle ait un regard fuyant, elle regarde pas du tout dans les yeux, ou est absente, n'est pas présente à son bébé, elle regarde ailleurs. Bon, ça, c'est des détails dont il faut être à l'affût, mais ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Là, si on a un bon lien de confiance, qu'on connaît bien la cliente, la patiente, ben c'est beaucoup plus facile à détecter. Mais si c'est dans le cadre d'un sans-rendez-vous, c'est pas évident, là.
Ouais. Maintenant, Nathalie, une femme qui aurait vécu un postpartum lors d'une première grossesse, oui, est-ce qu'elle serait plus à risque pour la deuxième?
Bien, on dit que oui, statistiquement parlant. Sauf que moi, j'ai le goût de dire qu'au niveau clinique, si la maman a vécu un postpartum difficile et qu'elle a fait du travail sur ce postpartum-là, dans le sens de comprendre qu'est-ce qui s'est joué, dans le sens aussi de faire la paix avec elle-même dans cette situation-là, ben ça veut pas dire, mais vraiment pas, qu'elle va en revivre un au deuxième. D'ailleurs, il y en a une qui témoigne dans le livre, qui dit justement qu'à sa première grossesse, elle a vécu une dépression, mais ça ne lui a pas empêché d'avoir deux autres enfants et ça s'est bien passé. Mmh. Elle n'a pas vécu de dépression postpartum. Il faut dire qu'elle avait consulté à la première aussi, puis qu'elle a eu un bon accompagnement par son médecin de famille pour la suite des deux autres grossesses, puis qui lui avait dit, écoute, je vais te suivre, on va faire ça ensemble. Tu ne seras pas toute seule. Il y avait comme tout un contexte là, qui était mis en place pour aider cette maman-là.
Donc, il est possible de prévenir si on se sait ou on se sent à risque parce qu'on a déjà vécu une dépression dans le passé ou peut-être que notre mère a vécu ça. Mm-hmm. On peut déjà prévoir le coup, en parler à notre entourage, peut-être déjà consulter un psychologue, oui. En parler à notre conjoint. Ce sont des façons de prévenir, Nathalie.
Tout à fait. Hein? Si on sent qu'on est moindrement fragile, moindrement anxieux, même durant la grossesse, on peut aller commencer une thérapie. Hein? Le site de l'Ordre des psychologues offre en fait la possibilité d'avoir un psychologue, un psychothérapeute à consulter. Donc, on peut facilement aller parler de ça, puis... Il y a des médecins qui recommandaient, dans les médecins qu'on a consultés, qui recommandaient d'abord et avant tout la psychothérapie et seulement la médication en support quand c'était nécessaire. Mais le fait d'aller parler, faire oser faire le tri de ce qui est anxiogène ou de ce qui fait peur, de ce qui rend inconfortable, déjà, ça peut être préventif.
Ouais. En même temps, j'entends beaucoup de jeunes mères autour de moi me dire il y a tellement de compétition. Les mères s'observent entre elles, se jugent, tentent de se donner des conseils, mais parfois ça peut être un petit peu mesquin et ça peut-être alourdir un petit peu. On se sent seul, on se sent démuni, on a encore moins envie d'exprimer notre détresse s'il y a. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes mères-là, ces jeunes femmes-là qui se sentent un petit peu oppressées par les autres mères?
J'ai le goût de dire que c'est vrai, que c'est une réalité dans le sens qu'il y en a beaucoup qui ressentent ça, qui le vivent de cette façon-là. Là aussi, il y a un travail à faire sur le sentiment de compétence, hein? Sentir compétente comme mère, sans avoir peur du jugement des autres, c'est tout un travail qui est à faire. Qui peut se faire en soins en psychothérapie, mais aussi dans les cours prénataux et postnatal, il y a toutes sortes de cours postnatal qui peuvent être aidants aussi à ce niveau-là quand il y a un partage, quand on sait qu'on vit la même chose avec d'autres personnes, on se sent vraiment moins seul, ça c'est certain.
Oui, j'ai l'impression que les mères vivent souvent le même type de réalité, mais que parfois elles restent un petit peu en silo avec, avec leur quotidien et qu'elles gagneraient beaucoup à communiquer puis à se réunir entre elles. Peut-être que ce livre-là va créer ces discussions du postpartum à la dépression, renaître après la naissance. Vous l'avez co-écrit, oui, Nathalie Parent avec Joanne Paquet et puis c'est édité aux éditions Québec Livres. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler, Nathalie Parent.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter. We'll be right back.
Docteur Robert Côté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à l'Hôpital Général de Montréal et là pour nous parler de l'AVC, des signaux pour le reconnaître. Docteur Côté, je le disais tout à l'heure, afin de minimiser les impacts d'un AVC et d'augmenter les chances de survie, il faut agir rapidement, mais encore faut-il pouvoir reconnaître les signaux. Et c'est pas donné à tout le monde, mais il y a une méthode qui peut nous aider à reconnaître ces signaux-là.
Oui, exactement. Alors, on emploie l'acronyme VIT. Qui signifie en fait pour le visage, V, est-ce que le visage est affaissé ou croche un peu? Alors ça se produit souvent avec les AVC. On a aussi la lettre I dans vide pour incapacité. Alors est-ce que le patient peut lever les deux bras ou non? Alors il y a souvent de la faiblesse dans l'AVC. Alors, c'est pour ça que souvent, puis c'est d'un côté. Alors il peut y avoir une incapacité à lever un bras par exemple ou bouger la main. Le T dans vite, c'est pour le trouble de la parole. Alors, les gens, souvent, lors d'un AVC, vont avoir des troubles à s'exprimer ou à comprendre. Et le E, c'est pour extrême urgence. Et dans ces cas-là, il s'agit de composer le 911 parce que les traitements aigus, si vous voulez, pour l'AVC, sont des traitements qui doivent être donnés à l'intérieur de quelques heures suite à une évaluation aux urgences. Avec un scan cérébral et tout ça. Mm-hmm. Alors, je pense que c'est important, puis c'est assez facile à retenir,
oui,
l'acronyme VIT.
Docteur Côté, est-ce qu'il y a des questions que l'on peut poser à quelqu'un que l'on soupçonne de vivre un AVC?
Si on voit quelqu'un qui, de façon soudaine, là, présente des symptômes, comme je viens de mentionner, on peut leur demander de répéter une phrase très simple, hein, comme « aujourd'hui, il fait beau » ou quelque chose du genre, et on peut évaluer si la personne, première des choses, peut comprendre ce qu'on lui dit. Il peut avoir un problème de compréhension. Et souvent, il peut avoir des problèmes, non pas de compréhension, mais d'expression. Alors, le patient ou la patiente ne pourra pas répéter la phrase comme on lui demande de le faire. Et si c'est couplé avec un problème de faiblesse d'un membre, comme le bras, bien à ce moment-là, je pense qu'il faut douter là, très rapidement qu'il s'agit d'un AVC et composer le 911.
Il faut agir vite, je le disais tout à l'heure, parce que comme ça minimise les impacts. Et là, vous venez de nous le dire, là, il faut agir très rapidement, même pour donner les soins là, du côté des spécialistes de la santé.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, je vous dirais qu'il depuis une quinzaine d'années, là, on a des traitements pour l'AVC aigu qu'on n'avait pas auparavant. Alors, il s'agit de façon, là, aux urgences, de façon très aiguë, là, de traitements. Il y a deux traitements majeurs à l'heure actuelle. Un des traitements, c'est un médicament intraveineux qui est donné. Évidemment, le patient est évalué lorsqu'il arrive aux urgences. Les signes vitaux sont vérifiés. On procède à un scan du cerveau. Alors, on évalue là, s'il y a du dommage ou non. On évalue également les vaisseaux afin d'évaluer s'il y a un blocage, parce que l'AVC, c'est soit un blocage d'un vaisseau au niveau du cerveau ou la rupture d'un vaisseau, s'il s'agit d'un AVC hémorragique. Alors, les traitements, le premier traitement, si c'est indiqué, c'est un traitement intraveineux, alors qui se donne par une injection qui dure environ une heure. Et cette injection-là permet de dissoudre, si vous voulez, le caillot qui empêche la perfusion là, du cerveau dans la région là où il y a un manque de sang. Et plus récemment, il y a quelques mois, on a prouvé l'efficacité d'une autre intervention, encore en quelques heures, en fait, qui est une intervention un peu plus compliquée, celle-là, où le neuroradiologiste d'intervention va naviguer un cathéter au niveau du vaisseau qui est bloqué, au niveau du cerveau, et pourra enlever le caillot de façon mécanique. Mm-hmm. Alors, et souvent, ça, c'est fait suite au traitement intraveineux, qui est un traitement... pour essayer de dissoudre le caillot, comme je disais tout à l'heure. Alors, ces interventions-là doivent se faire en général dans les 3 à 6 heures depuis le début des symptômes. Alors, vous pouvez vous imaginer que lorsqu'on a des symptômes qui semblent suggérer un AVC, alors ce qui est important, c'est de faire le 911 le plus rapidement possible.
Docteur Côté, vous êtes neurologue, évidemment, vous savez, vous, les reconnaître, ces signaux-là, mais est-ce que c'est le cas de tous les spécialistes de la santé? Je pose cette question parce que quelqu'un dans mon entourage m'a raconté s'être présenté à l'urgence avec en croyant faire un AVC et elle s'est fait retourner à la maison et pourtant quelques heures plus tard, eh ben cet AVC là a eu des impacts assez importants sur sa santé. Est-ce que il y a un problème au niveau des peut-être de d'autres spécialistes de la santé?
Ben, c'est une bonne question parce que les AVC peuvent se présenter évidemment de façon très différente. Hein. Étant donné que l'AVC, c'est une dysfonction, si vous voulez, d'une partie du cerveau. Alors, ça peut être n'importe quelle partie du cerveau. Ça pourrait être la vision, ça peut être le langage, ça peut être la motricité, ça peut être la mémoire, le jugement, tout ça. Alors, ça peut se présenter un petit peu là de toutes les façons, sauf qu'on sait qu'en général, les AVC sont plus fréquents chez les gens âgés qui présentent des facteurs de risque vasculaire, qu'on appelle, qui sont un peu les mêmes facteurs de risque que la maladie coronarienne. Alors, il y a l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol élevé, la cigarette, tout ça, les habitudes de vie là, qui peuvent augmenter là, les problèmes qu'on appelle d'athérosclérose. Alors, la présentation clinique peut être très diverse, hein, très diversifiée. Et dépendant des symptômes du patient, il peut arriver à l'occasion qu'on ait un problème diagnostique. C'est des choses qui arrivent, ça. Mais en général, je dois vous dire que les gens sont beaucoup plus sensibilisés maintenant aux symptômes et vont demander, dans le doute, là, mon expérience à moi en tout cas, c'est que les médecins aux urgences vont souvent demander là, les spécialistes afin de confirmer ou d'infirmer le diagnostic.
Ouais. Et moi, ce que je retiens, c'est que si on a un doute pour notre santé, pour nous, on se présente à l'urgence. Là, on ne tarde pas avec ça.
Exactement. Et puis si quelqu'un a un trouble à parler ou un trouble à utiliser sa main ou un problème de coordination, je pense que c'est important. Vaut mieux aller à l'urgence et d'être rassuré qu'il n'y a vraiment rien de sérieux plutôt que de manquer la chance, surtout aujourd'hui qu'on a deux traitements très efficaces qu'on n'avait pas il y a 10 ou 15 ans. Alors, ça vaut la peine vraiment.
Tout à fait, parce qu'on le sait, les impacts peuvent être assez importants. Docteur Robert Côté, vous êtes neurologue à l'Hôpital général de Montréal. Merci beaucoup. Bonne semaine.
Merci à vous.
Au revoir. Bye-bye. Jean-Sébastien de la Liberté à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche, Marianne Paquette au micro. Eh bien, on sera là, nous, tout au long de cette semaine, 14 heures en direct. C'est bon pour la santé. C'est un rendez-vous et puis portez-vous bien d'ici là. Bye-bye.